moi j'ai André de Mbujimayi au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange d'un parole aux auditeurs. La République démocratique du Congo a rejoint le samedi 10 août dernier la célébration de la journée africaine de la décentralisation célébrée par les pays membres de l'Union africaine. Le thème général de cette célébration était Journée africaine de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local. Rappelons que les processus de décentralisation visent en premier lieu le transfert des pouvoirs, des compétences, des responsabilités, des ressources et des charges de l'État aux provinces et autres entités territoriales décentralisées. Que pensez-vous du processus de décentralisation en RDC? Nous en parlons dans ce studio avec M. Makolo Jwikilahi, coordonnateur de la cellule technique d'appui à la décentralisation. Titi Mputu, Berry Franklin Luchaka, Paul Badianyama réalisent cette émission présentée par Pierrot et la Meji sous la supervision de Benika Bamba 081 890 6315 pour intervenir en direct. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
La République démocratique du Congo est engagée dans les processus de décentralisation et a rejoint la célébration de la journée africaine de la décentralisation. Cela nous permet de faire le point dans ce studio avec M. Makolo Jwikilahi sur l'évolution de ce processus dans notre pays. Votre point de vue, préoccupation, mais aussi proposition sont les bienvenus. M. Makolo Jwikilahi, bonjour.
Bonjour messieurs.
Merci d'avoir accepté encore une fois de plus l'invitation des Radio Capi pour parler de la décentralisation. Alors, bien avant que nous puissions parler de la situation en RDC, parlez-nous un peu de la journée africaine de la décentralisation.
Merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'offrez une fois de plus pour parler de ce changement fondamental qui fait ce qu'on appelle la refondation de l'État congolais, qui est la décentralisation. Oui, le samedi, le 10 août 2013, les États membres de l'Union africaine ont célébré la journée africaine de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local. Cette journée résulte d'une décision prise par les sommets des chefs d'État de l'Union africaine qui s'étaient réunis à Addis Abeba en janvier 2012 et qui ont pris cette décision. Cette décision a été prise à l'initiative de la conférence africaine de la décentralisation et du développement local. C'est une organisation de tous les ministres qui ont en charge de la décentralisation en Afrique. Notre pays, la République démocratique du Congo, est membre de l'Union africaine. Elle est aussi membre de la conférence africaine de la décentralisation et du développement local. Il est tout à fait normal qu'elle puisse aussi célébrer, comme tous les États membres de l'Union africaine, célébraient aussi le 10 août 2013 la journée africaine de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local, comme tous les autres pays. Nous, notre pays l'a célébré pour la première fois. Les autres pays l'ont déjà célébré pour la l'année dernière.
Oui.
Nous sommes déjà à la deuxième édition pour les autres pays. Pour nous, c'est la première édition. La première édition, bien que nous ne l'ayons pas célébrée, nous en connaissons le thème qui a été donné à tous les pays africains. C'était le financement de la décentralisation, fourniture de services publics à la population et le développement local. la journée de cette année-ci est célébrée sous le thème de la participation publique et citoyenne à la planification et à la budgétisation du développement local. Quand vous voyez les deux thèmes de la célébration de la journée africaine de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local, vous voyez qu'ils sont cohérents, les deux thèmes sont cohérents, ils s'imbriquent l'un dans l'autre et ils poursuivent un seul objectif de développement local, qui est l'objectif principal, un des objectifs principaux de la décentralisation. Donc, les thèmes sont pertinents et pour toute l'Afrique et pour notre pays. Et nous l'avons célébré, peut-être vous l'avez suivi, comme c'est la première fois, mais enfin, nous l'avons quand même célébré par trois activités qui ont été organisées sous la direction du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières. La première chose qui a été faite, c'est qu'il y a eu un communiqué officiel d'informer tout le Congolais de cette instauration de cette journée. Pour chaque 10 août de chaque année, nous célébrerons la journée africaine. Deuxième événement qui a marqué l'événement chez nous, a été le message que le ministre a adressé à la nation congolaise à cette occasion. La troisième activité a été une émission que nous avons célébrée, que nous avons animée hier sur Télé 50, sur le thème même de la journée. Voilà ce que je pourrais dire pour le moment.
Voilà, mais qu'elle vise effectivement la journée? C'est uniquement pour avoir ces activités sensibilisées? Y a-t-il eu un problème avant pour qu'on crée cette journée? Elle doit avoir quand même un but pour lequel on doit revenir chaque année sur le concept de décentralisation.
Oui, c'est d'abord pour réveiller à chaque année l'attention des États africains sur cette stratégie qui a été, si vous voulez, instaurée en Afrique dans les années 90 et pour la refondation de nos États qui, vous pouvez vous le rappeler, était marquée par deux contextes. Le contexte des partis uniques à travers toute l'Afrique et le contexte donc de l'administration sous un système de centralisation qu'on peut dire même excessive. Et par conséquent, il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait encore moins de démocratie locale, encore moins pas de gouvernance locale. Et cette fois-ci, il y a un mouvement municipal, un mouvement démocratique et un renouveau démocratique qui naît en Afrique. Il faut que à chaque année, on rappelle aux Africains que ce n'est pas par les partis uniques ou par l'autoritarisme qu'on va développer le pays. Les deux pays vont se développer avec la participation de la population elle-même, celle qui est bénéficiaire du développement. Il faut qu'elle participe aux efforts pour résoudre les problèmes auxquels elle est confrontée dans son environnement de tous les jours.
Voilà, merci. On pourra revenir à vous le temps qu'on écoute aussi les auditeurs. La question qui va suivre après, c'est celle de savoir où en sommes-nous aujourd'hui sur terrain, en RDC, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur les plans formels, où en sommes-nous avec ces processus de décentralisation. Cette question va être posée juste après qu'on ait écouté les auditeurs. Nous avons Mathieu qui est à Kananga, Placide qui est en Bujimaï et Franck qui est à Vienne, en Autriche.
Parole aux auditeurs.
Mathieu, vous nous appelez des Kananga au Kasaï occidental. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot. Je salue aussi l'invité du jour.
Nous faisons.
En fait, que je sache, la République démocratique du Congo, notre pays, à l'instar d'autres pays de l'OIA, célébrait quand même le samedi passé, le 10 août 2013, la journée africaine de la décentralisation de la gouvernance locale et du développement local. Je me rappelle bien le thème choisi pour cette année était la participation publique et citoyenne à la planification et budgétisation du développement local. Pour l'état de notre pays, cette journée s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre de la décentralisation qui a été adoptée le 11 juin 2009. À cela, après mes analyses, je ne vois pas l'avancement de la dite décentralisation dans notre pays depuis 2009 jusqu'à ce jour. Les raisons sont multiples, M. Pirot. Comment nous pouvons parler de la décentralisation de notre pays tant que d'autres institutions qui gèrent à partir de nos provinces jusqu'au niveau du Sénat sont issues de l'ancienne législature déjà caduque d'été, conformément aux dispositions constitutionnelles à son article D de notre constitution en vigueur du 18 février 2006. C'était déjà prévu pour la découpage territoriale, c'est-à-dire les 11 provinces vers les 26 provinces depuis cette date jusqu'à ce jour, malgré la sensibilisation et autres, il n'y a rien sur le terrain. D'ailleurs, c'était dit qu'il faut se faire en deux phases. Où en est-on aujourd'hui? Je pose la question à notre invité. En politique, les actes portent plus que les discours. Bref, nous sommes en train de dire tout haut que Nous avons déjà la décentralisation, chose qui n'existe pas, c'est faux et archi-faux. On ne peut pas vivre cela avec des institutions illégales et déjà hors de l'air. Je crois que pour la décentralisation, nous ne pouvons pas l'en parler puisque nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas vu jusqu'à ce jour. Je vous remercie, M. Pierrot.
Merci, Mathieu. Vous êtes à Kananga. Pour vous, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de décentralisation. Vous avez évoqué le fait qu'on ait des animateurs. Là, vous avez parlé de députés provinciaux et certains gouverneurs, y compris même les sénateurs qui sont encore issus des élections de 2006 alors que nous sommes déjà aujourd'hui en 2013. Ils n'ont pas été renouvelés. Et vous avez posé la question directe à notre invité de savoir où en est-on aujourd'hui avec le problème de découpage de provinces. On devait avoir déjà 26 provinces à cette date selon la Constitution. Et vous vous demandez où en sommes-nous aujourd'hui. Par rapport à cela, vous pensez qu'on ne peut pas parler de décentralisation s'il n'y a pas l'effectivité de actes sur terrain qui doivent accompagner la décentralisation. Merci beaucoup, Mathieu. Nous écoutons Placide qui nous appelle à Dombou-Jimaï au Kassai occidental. Bonjour, Placide. Placide, vous êtes avec nous, bonjour. Le temps qu'on puisse revoir sa ligne, nous appelons quelqu'un qui est à l'extérieur du pays. Franck, vous êtes à Vienne. Bonjour, Franck.
Bonjour, M. Pierrot. Bonjour à notre invité, l'ancien gouverneur de Bandundu, Papa Makolo Jibila. Et bonjour à tous les compatriotes congolais qui nous suivent. Avec qui nous échangeons sur vos ondes.
Voilà, nous faisons le point sur le processus de décentralisation dans notre pays. Vous avez suivi l'inquiétude de Mathieu de Kananga. Lui, il pense que le fait qu'on ait des animateurs d'autres institutions qui suivent des anciennes élections qui n'ont jamais été renouvelées, et même le problème de découpage des provinces, ça l'inquiète. Il pense qu'on ne peut pas parler de décentralisation en ces termes. Mais par rapport à l'évolution du processus, quel est votre point de vue?
Oui, merci beaucoup pour ce choix. La décentralisation chez nous à RDC, je crois qu'on devait aussi le définir déjà au préalable comme l'un des chantiers les plus difficiles à réaliser et les plus prioritaires. Les dispositions dans notre constitution sur ce domaine, il y en a. Et je crois que le problème se pose au niveau des modalités de son application. Personnellement, je suis content que vous ayez au studio comme invité un expert de cette matière en décentralisation. Il sait peut-être mieux que nous autres que de 2006 à 2013, c'est déjà 7 ans. Je voudrais qu'il puisse nous dire avant la fin de l'émission, qu'il nous le dise avec les mots simples et clairs. La RDC comme État est gérée de nos jours, est administrée de nos jours à base de quel modèle? C'est le modèle décentralisé ou c'est quel modèle? Parce que quand on suit les arguments des uns et des autres, c'est bien, la décentralisation est une bonne chose, mais encore faut-il qu'on ait aussi des structures proportionnelles à cette vision de la décentralisation. Et nous savons qu'il y a toujours des gens qui trouvent des prétextes par-ci, par-là, parce qu'on n'arrive pas à appliquer certaines dispositions de la Constitution. Mais qu'est-ce qui manque? C'est la question que nous nous posons. Qu'est-ce qui manque pour qu'on arrive à respecter tout ce qui est écrit dans la Constitution? Monsieur Pierrot, la RDC, c'est un pays qui est plus vaste, 6 fois plus que l'Allemagne. Si vous êtes en Allemagne, vous partez du sud à l'est, à bord des trains Intercity Express, vous mettez plus de 5 heures. Mais ce sont de très longues distances. Et imaginez-vous pour un pays qui vaut 6 fois plus que celui-là. Je crois que la décentralisation, c'est un des modèles qui serait favorable pour la gestion des proximités. Ça, l'invité le sait mieux que nous. Mais notre préoccupation, moi personnellement, je vais savoir qu'ils nous disent peut-être qu'on se fasse un peu beaucoup d'illusions. La RDC est administrée ces jours-ci à base de quel modèle? Merci beaucoup pour la réponse et je voudrais m'arrêter là.
Merci, merci beaucoup Franck, vous avez posé la question à notre invité de savoir de 2006 jusqu'à ces jours, la RDC est gérée sur quel modèle et vous vous inquiétez par rapport au problème des structures proportionnelles à la décentralisation, voilà un peu votre inquiétude. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez aussi intervenir au 081-890-6315. Nous avons Jean qui nous appelle de Kinshasa. Jean, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour les paroles auditeurs.
Nous faisons le point sur l'évolution du processus de décentralisation en RDC. Votre préoccupation?
Ok, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Bon, moi j'ai toujours répété chaque fois que notre pays, nous avons donc du mal à respecter les textes. Parce que la Constitution qui est notre loi fondamentale, nous devions fournir des efforts pour ne pas la trahir. Question de la décentralisation seulement, ce n'est pas question de marque d'argent, c'est marque seulement de la bonne volonté de le faire. Parce que nous avons toutes les possibilités pour le faire. Alors, nous avions posé, je crois, dans les émissions passées, certains préalables. Dire que voilà, il faut des infrastructures, que ce soit routières, des écoles, ainsi de suite. Mais nous remarquons qu'il y a toujours certaines provinces ou certaines régions qui sont privilégiées par rapport aux autres. Et cela handicape peut-être, en quelque sorte, la mise en place des 26 provinces. Mais le problème, ce n'est pas au niveau du peuple, le problème, c'est au niveau du gouvernement qui ne veut pas, nous allons dire comme ça, parce que la Constitution, disons, les élections, après les élections de 2006, on avait dit qu'on va poursuivre avec les élections jusqu'à municipal, ainsi de suite. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à mettre ça en application. On disait que non, ce n'est pas question d'argent. Le président de la CENI passé disait que l'argent était déjà disponibilisé. Mais où est passé cet argent-là pour que les élections se fassent et qu'on passe aux 26 provinces? Je pense que c'est seulement, nous devons être un peu sérieux avec nous-mêmes. C'est-à-dire, ce que nous mettons comme Constitution, nous devons faire tout pour appliquer, pour en fait que les gens ne puissent aussi nous respecter. Parce que nous avons les institutions, mais c'est nous-mêmes qui trahissons encore ces institutions, alors ça ne va pas. On fait toujours tourner en rond, alors ça ne nous arrange pas. C'est pourquoi moi je voulais demander au gouvernement qu'il puisse un peu activer la machine, en fait que les 26 provinces soient mises, la décentralisation soit mise en application, et non seulement sur les papiers comme tant d'autres lois qu'on a déjà votées, qui souffrent toujours d'application. Voilà ce que j'avais un peu à dire.
Merci beaucoup Jean, vous dites que le problème c'est le respect des textes, hein. nous devons respecter notre constitution, et vous vous êtes apaisanti sur le problème de la mise en place des 26 provinces. Vous pensez que le problème réside au niveau de la volonté politique, et vous souhaitez que le gouvernement accélère les choses pour qu'on aille ces 26 provinces, mais aussi qu'on puisse résoudre le problème des élections locales, municipales, hein, ce qui est resté pendant depuis 2006 et jusqu'en ce moment. Placide, vous êtes en Bujimaï, au Kasaï Oriental, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous.
On vous écoute, Placide.
Merci beaucoup pour la parole. Je crois que là, d'abord, la décentralisation elle-même est une très bonne chose, parce qu'elle permet de rapprocher les gouvernements des gouvernés. Mais néanmoins, concernant cette notion, comme elle est d'abord nouvelle pour nous, la population, ça pose toujours de problèmes, de malentendus, de mésententes, côté d'abord population et côté même dirigeants ou acteurs politiques. Je prends par exemple l'axe du découpage des provinces. Nous avons assisté à un débat ici au Conseil oriental, président Mbozoumane, où même les acteurs politiques ne comprennent même pas d'abord le bien fondé de ces découpages. Et par contre, ils prennent cet axe pour commencer à les utiliser à des fins politiques.
Mmh.
Dernièrement, il y a eu même un député provincial qui s'est vu suspendu de passer sur le média à cause de ses interventions qui ne favorisaient pas vraiment une très bonne sensibilisation concernant la décentralisation par la population. Mais lui intervenait selon ce que lui voulait et selon ses choix politiques ou ses désirs politiques afin de gagner la population à sa cause. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est la sensibilisation d'abord du monde, d'abord de la décentralisation, de bien fonder qu'est-ce qu'elle représente pour une population, qu'est-ce que la population peut attendre d'elle. On doit d'abord vraiment sensibiliser la population et les acteurs politiques. Et les acteurs politiques, parce que lorsqu'on parle du découpage, certaines personnes croient que non, on veut les séparer des autres et ils vont rester comme ils sont là. Non, le Congo est uni et indivisible, ce n'est pas les découpages qui vont nous séparer. Mais par contre, il y a certains hommes politiques, et surtout les acteurs politiques, qui ne comprennent même pas ça. On est, par contre, étant des leaders d'opinion, ils doivent sensibiliser la population. Par contre, ils s'en servent pour diviser encore la population. C'est ça ma contribution.
Merci beaucoup, Placide. Votre intervention tourne autour de la compréhension même de la décentralisation du côté de la population. Vous souhaitez qu'il y ait beaucoup de sensibilisation, mais aussi sensibiliser les acteurs politiques. Hein. Il y en a qui utilisent la décentralisation comme quelque chose pour diviser les uns et les autres, surtout en ce qui concerne les découpages. Les uns pensent qu'en allant au découpage, c'est une occasion de diviser les gens. Et vous souhaitez qu'il y a beaucoup de sensibilisation du côté de la population, mais aussi sensibiliser les acteurs politiques sur le vrai sens du mot décentralisation et les bien fondés de la décentralisation. On va terminer cette première partie, ce premier groupe d'auditeurs avec vous, Maître Francis. Vous êtes ici à Kinshasa, bonjour. Maître Francis, bonjour. Voilà, il est distrait sur sa ligne. Nous allons revenir à notre invité, mais je rappelle encore le numéro de contact pour votre point de vue par rapport à l'évolution du processus de décentralisation. C'est le 081 890 6315.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Monsieur Makolo Jibikilaï, vous avez suivi le premier groupe de nos auditeurs. Il y en a qui pensent qu'il n'y a pas vraiment d'avancée dans le processus de décentralisation. Mathieu de Kananga a évoqué ces problèmes des animateurs des institutions qui sont restés là depuis les élections de 2006. Il s'inquiète aussi par rapport au problème de la mise en œuvre de 26 provinces. Franck aussi est resté dans cette inquiétude en vous posant la question de savoir exactement nous sommes gérés sous quel mode. Est-ce que c'est un mode de décentralisation? Est-ce que c'est la centralisation? Il y a aussi Jean de Kinshasa, lui, qui a évoqué le problème de la volonté politique hein, pour aller vraiment, effectivement, à cette décentralisation, que ce soit même au problème de découpage. Il y a aussi Placide de Mbujimayi qui lui, il parle plus du déficit en termes de sensibilisation de la population sur les bienfaits de la décentralisation, y compris même les acteurs politiques qui utilisent cela à tour à travers, des fois, pour diviser les gens en ce qui concerne les volets de découpage de provinces. Votre réaction?
Merci à tout le monde. Les questions posées, les réflexions sont pertinentes. Le problème de la décentralisation est d'actualité dans notre pays. Et c'est tout à fait normal que tout le monde s'y intéresse.
Mmh.
Mais je voudrais répondre à toutes ces questions en regroupant toutes ces questions en disant tout cela sous un seul mot, la réforme.
Mmh.
Notre pays a subi une réforme fondamentale. C'est la réforme de l'organisation territoriale de notre pays. et cette réforme de l'organisation territoriale revêt trois volets. Le premier volet, tout le monde en parle, c'est ce découpage de nombre de provinces qui a augmenté de 11 à 25 ou à 26 quand on compte aussi la ville de Kinshasa. Deuxième aspect, c'est les changements du statut de la province qui a cessé d'être une entité territoriale décentralisée pour devenir une composante politique et administrative. Et sous les autres pays, dans d'autres pays, on les appelle, ce sont des communautés régionalisées. Troisième volet de la réforme de l'organisation territoriale, c'est la décentralisation elle-même. Cette décentralisation, elle est administrative à ce niveau-là, et au niveau d'une décentralisation administrative, on a mis en place les entités territoriales décentralisées, qui sont les villes, les communes, les secteurs et les chefferies. Et rien d'autre. Tout ce qui était décentralisé avant la constitution de 2006 ne le sont plus aujourd'hui décentralisés. Je parle ici du territoire. Et alors, je reviens en regroupant cela, on peut dire, qu'est-ce qui a changé? Oui, les premières, qu'est-ce qui a été fait? Où est-ce qu'on en est? D'abord, les découpages. Les découpages, je ne peux pas revenir sur le délai que la Constitution avait donné en premier lieu pour qu'on mette en place les découpages. Je reviens à vous dire que pour le moment, ces découpages sont en train d'être réalisés. Il fallait d'abord une loi qui délimite ces provinces. On les a créées, les nouvelles provinces, mais il fallait redonner un espace territorial sur lequel ils vont agir. Et c'est la loi sur les limites de provinces. Elle est aussi pourvue par la même constitution qui a créé les provinces. Et à ce sujet-là, le gouvernement a déjà élaboré les projets de loi qui a été adopté par les conseils des ministres, qui a envoyé au Parlement, au Sénat. Le Sénat a déjà adopté la loi sur les limites des provinces de la ville de Kinshasa et a adopté aussi une loi qui s'appelle la loi des programmations des modalités d'installation de provinces. Elle a déjà été adoptée au Sénat. Et ces deux lois se trouvent au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, qui en a parlé et qui bientôt va l'adopter à la prochaine rentrée parlementaire. Donc, il y a une avancée, même si elle est un peu tardive, mais il y a eu une avancée quand même. Le deuxième volet, qui est le volet de ce que j'ai appelé le changement des statuts de la province, nos provinces ont une autonomie politique, ont une autonomie administrative, financière, économique, très avancée, très large, très étendue, parce qu'ils ont des assemblées, ils ont des gouvernements, ils ont des parlements, et ils ont une autonomie, la province, ils sont devenus le centre des décisions, des prises en charge du développement de la province. Le développement de la province ne dépend plus du pouvoir central, et dépend exclusivement des institutions provinciales, qui est l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, et leurs administrations, et leurs populations, et leurs entités territoriales décentralisées. On a créé une responsabilité au niveau des provinces, et est-ce que ce côté-là, il y a quelque chose à faire? Oui, les provinces, c'est le statut de la province qui a changé, on a eu des élections provinciales, en 2006, les mandats, le premier mandat des députés provinciaux est en train de prendre fin et les gouvernements provinciaux ont été élus. Les gouvernements, les assemblées ont été élues, les gouverneurs ont été élus avec les vice-gouverneurs et les gouverneurs ont désigné leur gouvernement, et ce gouvernement ne sont entrés en fonction qu'après avoir été investis par l'Assemblée. Ce sont tous les aspects de la décentralisation sont là. Donc, il n'y a plus eu de gouvernement ou de gouverneurs nommés, tous ont été élus. Et quand vous avez les cas où les assemblées ont fonctionné, ils ont sanctionné les gouverneurs indélicats. ils ont subi des motions de censure et ils ont été remplacés. Donc il y a déjà un fonctionnement quand même de la décentralisation de ce côté-là. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. Hein? Est-ce qu'ils ont produit le changement? Est-ce qu'ils ont fait développer les provinces? Dans certaines provinces, il y a eu des actes de développement, dans d'autres, on n'en a pas, mais d'une manière générale, il y a une faiblesse. Hein, ça n'a pas, c'est un apprentissage, c'est un début. On ne peut pas tout réaliser en une année. En un seul mandat, les provinces ne peuvent pas tout réaliser. Ils ont chacun, à chacune, un programme de développement, mais ces programmes n'ont pas été réalisés. Les assemblées provinciales n'ont pas contrôlé l'exécution de plans de développement sur base desquels ils ont investi les gouverneurs et leur gouvernement. Donc il y a de part et d'autre des choses qui n'ont pas très bien marché. Les assemblées n'ont pas contrôlé les gouverneurs et les gouvernements. Les gouvernements n'ont pas été interpellés, n'ont pas de compte à rendre compte à la population qu'ils a élue. Il y a tendance à vouloir rendre compte plutôt à Kinshasa plutôt qu'à la population,
qu'à la population locale, qui a élu.
Ça, c'est un problème, mais ça fait partie de l'apprentissage. Hein? Nous venons d'un système qui était centralisé à outrance. Tout ce que nous faisons maintenant, c'est un nouveau mode de gestion et d'organisation qui n'était pas en place, qu'on doit apprendre, et pour le maîtriser, il peut y avoir un... Tout le monde a envie d'aller terminer vite avec tous les problèmes auxquels on est confronté, mais il faut du temps. Hein? Mais ça. Il y a deuxième aspect, troisième volet, c'est les entités territoriales décentralisées. Oui, nous avons des villes, nous avons des communes, nous avons des secteurs, nous avons des chefferies, et elles sont des entités territoriales décentralisées. Mais ils n'ont pas encore leur organe de décision, leurs organes qui doivent gérer leur développement. C'est un problème. Donc, c'est le problème que tout le monde connaît, y compris les gouvernements qui reconnaissent qu'il y a du retard. C'est un problème. Un des grands défis à relever, c'est l'organisation des élections locales. Urbaines, municipales et locales. C'est un problème à résoudre, mais cela n'empêche pas que c'est que les entités territoriales centralisées existent et qu'elles ont un rôle à jouer. Et qu'on aura à organiser les élections un jour pour que la population se prenne en charge. C'est à ce niveau d'ailleurs que la population se prend véritablement en charge. Quand je pense ici à tous les thèmes de journée africaine de la décentralisation, que ce soit le premier thème de l'année dernière, que ce soit le thème d'aujourd'hui, qui aboutissent tous par quelque chose qu'on souhaite, le développement local, on ne peut pas réaliser le développement local sans qu'il y ait les décideurs. Ceux qui agissent, ce sont les organes. Ils ne sont pas en place et ils ont besoin de moyens et ces moyens ne sont pas encore tous là. Donc, il y a quelque chose qui a été fait. Alors, globalement, donc, nous avons des institutions démocratiquement élues au niveau province. Il y a des lois, plusieurs lois, qui ont été adoptées pour donner aux provinces et donner aux entités décentralisées pour traduire, si vous voulez, la constitution en acte, les dispositions constitutionnelles en acte. Vous avez des lois qui ont été prises, il y en a huit lois qui ont été prises. La première, c'est celle qui a défini le statut donc, de la province. Et c'est la nouvelle organisation, celle qui régit les entités territoriales décentralisées, et celle qui nous donne des entités territoriales déconcentrées, les territoires, le quartier, le groupement, le village, comment ils doivent fonctionner désormais, ou doivent jouer un rôle. Il y a la loi sur la conférence des gouverneurs. La conférence des gouverneurs, c'est une grande institution. C'est elle qui fait que, compte tenu du statut de la province, il peut y avoir un risque de conflit ou de tension entre le pouvoir central et les provinces. Et la conférence des gouverneurs est là pour harmoniser des rapports entre les deux. Et vous avez la loi sur les finances publiques qui a été votée et qui est promulguée, qui est en train d'être mise en œuvre, d'être appliquée. C'est la loi qui donne aux provinces les ressources financières dont elles ont besoin pour appliquer leur programme de développement, résoudre les problèmes. C'est le même, la même loi financière qui donne aux entités territoriales centralisées les ressources pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes de la population. Et vous avez une loi, dernière loi qui vient d'être votée, qui est promulguée en février 2013, hein, celle qui détermine ce qu'on peut appeler l'assiette fiscale des provinces. Ce qu'on a dit, la nomenclature des recettes est reconnue aux provinces, et aux entités qui sont décentralisées. Ils viennent d'appeler ça en février. Il faut qu'on ait le temps
les applique. Nous sommes dans un processus.
Nous sommes dans un processus où l'on applique, et nous avons la décentralisation, elle est technique, elle est on les met en place progressivement, et n'est pas, tout n'arrive pas à un seul moment. Voilà. Mais il y a des avancées, il y a des faiblesses, nous le reconnaissons, mais il y a des avancées quand même.
Voilà, merci beaucoup pour ça. On pourra aussi évoquer le cœur de sa sensibilisation. Il y a les auditeurs qui ont pensé qu'il faut sensibiliser plus pour que les gens comprennent comment on y va, où en est-on aujourd'hui. C'est une question d'ailleurs que nous avions aussi évoquée avec vous lors de la dernière émission, le volet sensibilisation. Nous avons Dr. Richard qui est ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour Monsieur Makolo Sibikilay, ancien gouverneur du Bas-Congo qui m'a géré à bon escient.
Voilà, merci beaucoup.
Je lui souhaite aussi prompte activité, santé, etc. C'est un monsieur qui est vraiment un outil important pour enseigner la décentralisation aux Congolais.
Voilà. Ok, on y va maintenant par rapport à l'avenir. Nous sommes en deuxième partie de l'émission. Vous avez suivi, on a fait le point sur terrain. Mais quelles sont les propositions pour que le processus puisse aller comme il faut? Qu'est-ce qui doit être fait maintenant?
Oui, ce qui doit être fait, je remercie M. Makolo parce que il a dit exactement ce que je voulais dire pour expliquer la décentralisation par rapport à une vision de famille qui a dont il y a le papa et la maman, et la famille a 5 enfants, et le papa a su bâtir une richesse qui se repose sur 12 maisons. Alors il prend 5 il donne à chaque enfant 2 maisons, et donc chaque enfant aura 2 maisons et lui et sa femme resteront avec 2 maisons. Mais il a le regard, c'est ce que j'ajoute au propos de Monsieur Makolo, le niveau central doit avoir un regard attentif sur ce qui se passe en province, sinon les gens vont se développer en roi et puis créer des petits royaumes, et ils vont aussi peut-être se comporter en dissident. C'est-à-dire, je vois là-dedans la pensée qui circule maintenant, la pensée qui fait passer le tribalisme à la place de la décentralisation, à la place de ce que disent aussi fédéralisme. Ça, c'est très important. Et puis, là où il a dit il y a eu des abus, je le félicite parce qu'il dit sincèrement ce qu'il y a eu. Il y a eu des gouverneurs qu'on a débarqués parce que l'argent n'était pas destiné aux problèmes, par exemple, à la résolution des problèmes de la communauté. Je prends un exemple. Une contrée qui présente, c'est-à-dire une province, des personnes qui portent qui font la malnutrition. Est-ce que c'est Kinshasa qui doit résoudre ça? Qu'est-ce qu'on fait avec les revenus de la province? Vous savez que notre pays regorge 42% de sa population faisant la malnutrition chronique. Et si nous regardons bien, en dehors de la ville de Kinshasa, toutes les provinces sont nanties en ressources naturelles capables de résoudre ce problème de malnutrition. Mais c'est Kinshasa qui envoie ses partenaires sur le terrain pour résoudre ces problèmes. Je pose la question maintenant, dans cette décentralisation, je prends mon secteur, que font les ministres de la santé publique des provinces? C'est ça encore le problème. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que l'articulation donne nouvelle qui est la décentralisation, présentée par M. Makolo Jibikele, que je félicite, doit être respectée. Mais il faut aussi que le niveau central regarde. Sinon, on va fabriquer des rois télé qui vont utiliser mal cette notion de décentralisation. Merci beaucoup.
Merci, docteur Richard. Vous souhaitez qu'il y ait vraiment une prise des responsabilités au niveau provincial, par exemple. Vous avez évoqué dans votre secteur de la santé que font les ministres provinciaux pour résoudre le problème, par exemple, comme la malnutrition, un problème qui peut être résolu localement compte tenu des ressources que chaque province régorge. Mais vous souhaitez qu'il y ait aussi un regard du gouvernement central sur la gestion de ces provinces pour éviter qu'on ait des dérives et que les acteurs provinciaux ne se comportent en roi. Merci beaucoup, docteur Richard. Nous restons à Kinshasa avec Maurice. Vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Pierrot.
On vous écoute. Qu'est-ce qui doit être fait pour la réussite de ce processus de décentralisation?
En fait, Pierrot, moi je commence d'abord par saluer d'abord l'esprit, l'esprit de constitution qui a voulu que qui a donné la forme actuelle, donc la forme sur le plan structurel de l'État, la forme de l'État adoptée par rapport à la Constitution du 18 février 2006, qui a donné plutôt à l'État la forme d'un État plutôt unitaire décentralisé. Je pense que au regard de l'étendue, de la grandeur de notre pays, il fallait vraiment imaginer ou penser à fédéraliser vraiment ce pays. Alors, mais les problèmes ne se posent pas à ce niveau. Les problèmes se posent sur l'exécution. Vous savez que le régime qui nous dirige, c'est un régime qui se distingue plus sur le non-respect des textes. Alors, je suis même surpris d'apprendre par votre invité, qui est en train juste, depuis que j'ai commencé à les suivre, d'analyser cette question que sur le plan structurel et non sur le plan fondamental. Vous voyez que cette constitution avait prévu par rapport à la décentralisation une décentralisation qui devrait s'accompagner à une répartition constitutionnelle des recettes nationales à raison de 50% pour les pouvoirs centraux, 10% à la Caisse nationale des péréquations et 40% pour les provinces. Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui? Il faut d'abord que l'invité nous réponde à cette question, avant qu'il puisse nous parler de vanter les mérites de cette forme de l'État qui ne donne pas aujourd'hui satisfaction à la population qui attendait des retombées positives. Il a parlé aussi de la conférence des gouverneurs. Si je dois aussi revenir sur le texte, la conférence des gouverneurs devrait se tenir au moins 2 fois l'an. Vous pouvez lui poser la question combien de fois, depuis 2006 qu'on a mis en place ces institutions, combien de fois il y a eu conférence de gouverneurs. Alors, donc le problème se pose au niveau de respect des textes. C'est ça même aujourd'hui, si vous voyez que le pays est vraiment dans un désordre total, le pays est dans le chaos, c'est parce que il y a eu souvent des textes, il y a eu souvent des accords qui ont été dûment signés, mais qui ne sont pas respectés aujourd'hui. C'est même la cause avec les M23 que vous voyez. Aujourd'hui, ils disent il y a eu des accords qui ont été signés, on leur a donné la gestion de l'aéroport de Goma, et aujourd'hui, on ne peut pas. On ne peut pas nous en parler. Qu'est-ce qu'il y a eu dans cet accord? C'est ça aussi qui se passe dans la décentralisation. Dans la décentralisation, vous allez voir dans la Constitution, je crois, à l'article 205 de la Constitution, qui pose le principe qu'une assemblée provinciale ne peut empiéter sur les compétences du pouvoir central et que ni celui-ci, ni l'Assemblée nationale, ni le Sénat ne le peuvent sur les compétences provinciales. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous sommes dans la confusion, dans l'imbroglio. Aujourd'hui, un gouverneur est imposé par une certaine majorité passive. Les députés provinciaux ne justifient pas, plutôt ne jouissent pas de leur indépendance. On leur impose des candidats. Donc tout ça, les dysfonctionnements voulus par l'exécutif national, c'est ça qui se répercute au niveau même provincial. Donc vous ne pouvez pas vous attendre que ce qui se passe ici, que nous constatons au niveau national, doit être le contraire de ce qui se passe au niveau provincial.
Maurice, pour vous, pour retenir votre propos, vous dites que le problème aujourd'hui se pose plus au niveau de la volonté de respecter les textes. Vous avez posé la question où en est-on avec les 40%, où en est-on avec les 10% pour la Caisse nationale des péréquations, où en est-on avec la conférence de gouverneurs, la fréquence des tenues de cette conférence. Pour vous, le problème, c'est plus au niveau du respect préférez des textes ailleurs. Hein. Votre souci, c'est de voir l'exécutif national libérer et faire appliquer volontairement les textes pour réussir la décentralisation. Merci beaucoup, Maurice. Nous restons à Kinshasa. Honorable Atigo, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur Géraud.
Et nous dégageons ensemble les pistes des solutions pour l'avancement du processus de décentralisation. Quel est votre point de vue?
Oui, l'avancement est un peu significatif par rapport à ce que nous a toujours rappelé. Nous sommes des champions en élaboration de lois, mais quant au niveau de l'applicabilité, ça pose toujours problème. Comme vous le savez, dans tous les secteurs, nous avons toutes les lois possibles qui puissent exister, toutes les réglementations qui puissent exister, mais pour faire respecter l'application de cela, en tout cas, ça pose problème. Mm-hmm. Vous allez le constater, depuis très longtemps qu'on a commencé avec ce processus, moi, je commence à avoir même peur de cette notion de la décentralisation. En elle-même, en soi, elle est bonne par rapport à l'étendue de notre pays. Il fallait qu'on arrive à cela. Mais aujourd'hui, je commence à avoir peur, je ne sais pas, parce que le gouvernement ne s'y met pas avec tous les sérieux. Tous les sérieux, ça veut dire quoi? Le gouvernement central connaît déjà ce qu'il y a comme conséquence de l'application de cela. Parce que jusque-là, nous sommes encore au niveau de la notion elle-même. Est-ce qu'elle est déjà effective? Pas encore, parce que toutes les lois ne sont pas encore votées, promulguées. Alors, parce qu'on en parle, on commence déjà à appliquer certaines notions de ou sous-notions, je peux appeler, de la décentralisation. On commence à voir les 40% qui partent ou pas dans les provinces, mais c'est déjà décidé. Les gouverneurs ont déjà l'autonomie de ceci, de cela. Mais le gouvernement central, certains ministres, ou presque tous les ministres qui ont un certain pouvoir aussi au niveau de province, ils sont en train de le constater aujourd'hui que le gouverneur commence déjà à se comporter à des petits rois ou ratelés, comme venait de le dire un intervenant là tout de suite. Donc tout ce qui vient d'être dit ici, cela est vrai. Au lieu que le gouvernement prenne déjà des mesures le plus tôt possible, mais ils sont en train de se plaindre sans savoir qu'ils ont le pouvoir sur le gouverneur, sur le province, mais ils se plaignent, le ministre national, tous presque, surtout j'ai pitié du ministre de l'Intérieur. Toute décision, tout arrêté qu'il peut prendre, qui doit s'appliquer au niveau de la province, rien n'est appliqué. Aujourd'hui, tous les gouverneurs rejettent des affectations, nominations de chefs de collectivités, des chefs de secteur, des administrateurs, ou qui que ce soit, donc il peut envoyer une affectation. Et le gouverneur qui fait lui aussi fi de cela, il rejette, il nomme celui qu'il veut. Il y a une confusion totale dans toutes les matières, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Mais dans tout cela, il y a un problème. Est-ce que les provinces sont, disons, les gouverneurs sont déjà suffisamment sensibilisés? Je ne le pense pas. Je voulais interpeller le gouvernement à mettre un paquet considérable pour organiser des campagnes d'éducation, campagnes de recyclage pendant plusieurs moments du fait que nous sommes en train d'attendre que toutes les lois soient promulguées. Tout pendant ce temps, on doit sensibiliser les gouverneurs, donc au niveau des provinces, même les ministres provinciaux, les députés provinciaux. Ça pose un problème et c'est déjà un danger. Nous courons des grands, très 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 grands dangers, comme les ministres eux-mêmes le savent déjà. Il faut qu'il collabore avec le Premier ministre, avec le chef de l'État. La conférence des gouverneurs, c'est un cadre qui doit harmoniser toutes ces choses.
Merci.
Mais je
beaucoup,
me demande, qu'est-ce qu'on va faire dans ces conférences-là?
Merci beaucoup. Voilà, on est en train d'étendre vers les dernières minutes vraiment de ultime, on peut dire ainsi, hein, de l'émission. Mais votre souci, c'est qu'il y ait cette sensibilisation pour que les gens comprennent leur responsabilité dans la décentralisation, pour qu'on évite qu'il y ait ces chevauchements, une affectation du ministre national est rejetée par le gouverneur. On voit des fois quelqu'un suspendu par un ministre provincial, il est relevé de ses fonctions, il est réhabilité par le ministre national, on a vu ça. Et alors, vous voulez qu'il y ait vraiment des sensibilisations pour éviter qu'on tombe dans les erreurs. Merci beaucoup. On écoute le dernier auditeur avant la réaction de notre invité et sa conclusion. Rapidement, Jean-Pierre, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Pierrot, c'est Pierrot.
Oui, Jean-Pierre, en 45 secondes,
bonjour,
votre point de vue, oui.
Parce que je ne suis pas devant ma poste, le poste est récepteur, je vous écoute par le téléphone.
Allez-y rapidement, en 40 secondes, votre intervention par rapport à la décentralisation.
Oui, moi, j'aurais souhaité dire ceci. La décentralisation, telle qu'elle est définie par la Constitution, on ne doit pas toujours se contenter des Sénats. Pourquoi? Parce que on voit maintenant, il y a d'autres structures de l'État qui fonctionnent dans des territoires où ils louent des maisons de particuliers. Alors tout d'abord, on devrait commencer par songer à améliorer les anciens qui sont au travail. Vous voyez, le gouvernement provincial qui ne sont pas bien aménagés, il y a des sénats, des faits que le Belge nous avait laissé depuis longtemps. On ne doit pas toujours se contenter à beaucoup créer pour ne pas connaître comment les gérer. Il faudrait avoir une petite portion de terre pour savoir comment gérer cette portion de terre-là.
Voilà, merci beaucoup Jean-Pierre. Je crois que vous posez la question des infrastructures par rapport aux provinces qui doivent être mises en place. Merci beaucoup. On termine avec vous rapidement. Maître Francis, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à monsieur le gouverneur honoraire.
En quelques mots, vous avez suivi les uns et les autres. Pour terminer au nom des auditeurs, quel est votre point de vue en quelques mots?
Oui, mon point de vue en quelques mots est simple, que je résume sur l'article 204 de la Constitution qui a prévu toutes les notions sur les compétences de la province. Donc, sur le plan textuel, la décentralisation est déjà là. Mais le problème, c'est au niveau de la volonté politique. Nos politiques ont déjà compris que si la décentralisation arriver vraiment à terme, ils n'auront pas des occasions pour avoir de l'argent, pour se taper des maisons et autres, raison pour laquelle ils bloquent ces processus. Donc ce n'est pas un problème de moyens, moins encore un problème technique, comme on pourrait le dire, mais c'est un problème de volonté politique.
Voilà, merci beaucoup Maître Francis. On revient à vous, Monsieur Makolo Jbikilaï. On a suivi les uns et les autres, il y a des peurs, il y a d'encouragement, mais il y a aussi le problème de la sensibilisation qui revient par rapport à la compréhension même de la décentralisation, que ce soit au niveau de la population ou des acteurs politiques, et vous qui pilotez la cellule technique, qu'est-ce que les auditeurs peuvent retenir par rapport à l'avancement de ces processus dans notre pays?
Oui, merci beaucoup à chacun et à tous pour toutes ces questions, pour toutes ces réflexions des patriotes qui aiment leur pays, qui veulent que nous puissions avancer. Je regroupe toutes les réflexions, tous les questionnements en ce que j'appelle, moi, les défis de la décentralisation.
Exact.
Ils sont au nombre de 4 ou 5 qu'on doit relever, et les mises en œuvre, mais le gouvernement est conscient qu'il doit relever plusieurs défis. Parmi les premiers défis, c'est l'appropriation de la décentralisation. L'appropriation signifie que tout le monde doit la comprendre, que nous ayons la même vision, que nous puissions comprendre la de la même manière sur l'ensemble du territoire national. Que tout le monde, après l'avoir comprise, joue le rôle qu'il peut jouer pour faire avancer la décentralisation. Et pour qu'il change les mentalités. Qu'on ne s'accroche pas aux mentalités anciennes, qu'on voit maintenant des changements. Ça, c'est l'appropriation de la décentralisation grâce à la campagne de sensibilisation. Deuxième défi qui a été cité, c'est l'effectivité des transferts des compétences et des ressources correspondantes aux compétences transférées. Ce n'est pas encore tout à fait effectif et le gouvernement met en place. La semaine prochaine, dans 2 semaines, vous apprendrez, il y a un atelier national qui va voter, qui va valider ce que nous appelons la feuille de route de la mise en œuvre de ces transferts de compétences dans les domaines de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans les domaines de l'agriculture et du développement rural. D'abord, les 3 premières compétences véritablement provinciales et locales, et pour que ça devienne effectif. Donc, il y a des problèmes à résoudre, ce côté-là. Pour qu'il y ait transfert effectif, je ne voulais pas m'étendre, ça deviendra trop de temps, puisqu'il faut transférer des ressources humaines.
On reviendra d'ailleurs là-dessus quand on aura tenu cet atelier.
Oui, oui.
Je promets aux auditeurs qu'on va se retrouver évoquer
cela. Les ressources, on va regarder les ressources financières, les ressources techniques, ainsi de suite.
Le troisième,
c'est les renforcements des capacités. Le renforcement des capacités, donc les gens doivent apprendre la décentralisation, appliquer ses principes. Hein, il faut connaître la législation, c'est que c'est et quelles sont ses règles et les appliquer. Nous venons de loin, nous avons été dans un système de colonisation, la centralisation, le système du parti État, centralisation excessive. Et maintenant, il faut que nous puissions apprendre la décentralisation.
Et les quatrièmes défis.
Les quatrièmes, c'est le financement de la décentralisation. Il faut promouvoir les finances de province. Les provinces n'ont pas de financement, mais les finances locales doivent être promues. Il faut que les provinces aient les ressources pour se faire. On peut pas revenir sur les 40%, hein, mais les 40%, elles sont libérées, elles sont mal utilisées peut-être, il n'y a pas de contrôle, mais pour le moment, il faudrait que la Cour des comptes, l'inspection des finances, générale des finances, contrôle l'utilisation des 40%. Et que les provinces versent aussi les leurs. On peut dire aussi, en dernier lieu, la volonté politique. Nous reconnaissons tous qu'il y a un problème de volonté politique.
Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Mokolo Jubikilaï. Je crois, comme je le disais tout à l'heure aux auditeurs, quand tu auras cet atelier national, on pourra revenir pour examiner le transfert des compétences. C'est un débat aussi très important. Nous vous disons merci vraiment d'avoir répondu aux préoccupations des auditeurs sur la décentralisation. Nous disons également merci à nos auditeurs. On se retrouve demain mercredi à 10h03 pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. Une cinquantaine d'organisations non gouvernementales féminines accusent leur présidente d'escroquerie avec promesse de voyager vers diverses destinations. Ces ONG disent avoir versé près de 100 000 dollars américains à leur présidente sans réalisation des promesses. Rappelons que cette dernière est arrêtée et détenue au CPRK depuis le 19 juillet dernier. Cette situation relance le débat sur les ONG et leur impact dans la société congolaise qui en compte 2 milliers. On se retrouve demain mercredi. Quel est l'impact des organisations non gouvernementales dans votre milieu? On se retrouve demain mercredi pour en parler. Au revoir.